d'économie, Georges Kamoudjova.
Six entreprises de l'État et trois régies financières ont été passées à la loupe. Résultat, plus d'un milliard de dollars portés disparus et des maisons de l'État spoliées. Nazaire Coco nous propose un dossier sur ce rapport qui donnerait place à un véritable scandale sous d'autres yeux. Éco d'économie à Bukavu, la capitale du Sud Kivu produit des antirétroviraux, mais elle reste fidèle à sa quinine. Reportage au cœur de la pharmacina à suivre dans 15 minutes. Et le diamant congolais retrouve un peu de sa valeur, ce sera notre chronique matière première. L'entrepreneur de la semaine, Véronica Baseke, patronne de la foresterie LAC. Bienvenue à tous.
Les infos économiques de la semaine.
Les nouvelles économiques nationales de la semaine par l'ouverture ce samedi de la foire internationale de Kinshasa. Brasserie, styliste, alimentation ou opérateur de téléphonie mobile, occasion de plus pour s'exhiber. Certaines agences de publicité ont passé les dernières 48 heures sous pression pour finaliser les affiches en demande croissante. Mais la FICIN 2008, c'est aussi les absents, parmi lesquels Kinexpress, une entreprise spécialisée dans les messageries financières. Kinexpress n'a pu se décider avant pour y participer. Écoutez Jean-Marie Kalongi, comptable et chargé de l'administration.
On peut rater, ça me fait un peu mal. La fois dernière, on n'était pas, mais je crois à la prochaine, on va se présenter. Je ne dirais pas que ça va nous occasionner des pertes. Il devait y avoir un plus si on se présente aussi sur le marché à la FICIN. C'est important, vous savez, lorsqu'on se retrouve dans un marché comme la FICIN, il y a l'échange commercial. Nous découvrons de nouveaux produits et nous présentons les produits que nous sommes en train de présenter sur le marché aux clients. Amener les clients à pouvoir vous découvrir et découvrir ce que nous sommes en train de faire, ça de l'avantage pour la bonne marche des affaires.
Une nouvelle institution de microfinance à Wamba, territoire situé à environ 600 km au nord-est de Kisangani. Elle fonctionne depuis 5 jours, dénommée Baraka Press. Cette maison d'épargne dont le siège est implanté à Goma est la première à s'installer à Wamba sur initiative de la société civile locale. Selon le gérant de cette entreprise, outre l'épargne et le crédit, 5 autres services sont organisés à son sein, notamment l'assistance médicale, l'assistance scolaire, l'amélioration de l'habitat et le compte bloqué. En Bandaka, le CESCAM, structure d'encadrement des exploitants artisanaux, signe un accord avec le gouvernement provincial de l'Équateur. Il s'agit d'organiser l'artisanat minier dans cette province et l'accord permettra à la province effectivement de canaliser toute la production des artisanaux miniers dans le circuit formel de commercialisation. C'est pour lutter contre la fraude et la contrebande minière à l'Équateur. Plus de détails avec Ghislaine Nentobo.
C'est depuis mars 2008 que l'Équateur a été par arrêté du ministre des Mines du gouvernement central déclaré zone minière. L'or et les diamants sont les minerais exploités actuellement dans la partie nord de cette province. Pendant, cette exploitation se faisait jusque-là d'une manière anarchique par des creuseurs artisanaux, favorisant ainsi la fraude. Pour le premier semestre 2008, par exemple, selon le chef d'antenne du CESCAM Équateur, la production moyenne mensuelle de l'or est de 5 kg 316 grammes et pour le diamant de 605 carats. Et cela ne profite pas à l'État. C'est ainsi que le service d'assistance et d'encadrement des mines à petite échelle veut organiser ce secteur à l'Équateur en vue de canaliser la production vers des comptoirs à créer. Écoutez Mundio Kasongi Deo Gracias, chef du département administratif et du contentieux du CESCAM.
Quand on va réussir à canaliser cette production vers les comptoirs à créer, cela va permettre à l'État d'accroître sa recette, prélever l'état de sa exploitation et tenir les statistiques minières fiables. Le texte de l'Ukraine nous permet de percevoir des en rémunération de ces prestations. Ces frais sont répartis entre tous les artisans et vont rester totalement à l'intérieur de la province de l'Équateur.
Pour sa part, le ministre provincial des Mines et Hydrocarbures, Guy Inengue, estime qu'à travers ce service, l'Équateur mettra non seulement en valeur ses ressources minières, mais jouira également des recettes qui découleront de cette activité.
Ghislaine Ntobo depuis Mbandaka. Tenke Fungurume Mining souhaite obtenir un soutien du gouvernement de la RDC. L'entreprise, dont le contrat a été classé à revisiter en mars dernier, a exposé son projet au ministre de budget cette semaine. Par ce projet, cette entreprise compte installer une usine électrolytique, donc qui procédera à séparer les déchets des minerais. Tenke Fungurume Mining offre 4700 emplois et sa contribution annuelle en termes d'impôts s'élève à 18,6 millions de dollars américains. Avec ce nouveau projet, elle compte offrir 6 000 emplois, mais l'on se souviendra qu'au début de cette année, la population de la cité de Fungurume au Katanga avait protesté contre le manque de réalisation sociale de l'entreprise. Quelques données macroéconomiques pour terminer ces infos nationales. L'indice des prix confirme la baisse. Sa baisse donc, entamée depuis fin juin, il passe ainsi de 1,36% à 0,65% et le taux d'inflation annualisé, lui, continue sa suite de records. Il atteint 35,33% contre un objectif de 12% pour l'année 2008. Et le franc congolais a connu une dépréciation en milieu de semaine, 558 francs congolais pour obtenir donc 1 dollar.
Le dossier de la semaine.
Plus d'un milliard de dollars, des immeubles et d'autres biens de l'État spoliés, détournés. Ce rapport de la Commission interministérielle pour l'audit et la bonne gouvernance a été publié cette semaine. Au-delà du volet politique, moins négligeable d'ailleurs, voyons le côté transparence. Nasser Koko est avec nous. C'est un dossier que vous suivez depuis le début de cette année.
C'est depuis 7 mois que ce rapport traînait sur la table du Premier ministre. Une première annonce avait été faite en mars dernier, mais sans suite, sans faire grand bruit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enquête a été menée en 19 mois, c'est-à-dire entre janvier 2006 et juillet 2007.
Alors, on parle aujourd'hui de 1,3 milliard de dollars détournés, et c'est énorme, 19 mois.
Pour vous faire une idée sur ce que ça peut représenter, cette somme est équivalente à la totalité des recettes de l'État mentionnées au budget 2007.
Mais peut-on dire que tout ce montant a été détourné par une dizaine d'individus?
Il faut tout d'abord distinguer deux concepts. Il y a marque à gagner et détournement. La différence entre les deux, c'est que le détournement suppose que l'argent est mobilisé, mais qu'il est utilisé à des fins autres que celles auxquelles il était destiné. Mais marque à gagner suppose que de l'argent pouvait être mobilisé par l'État, mais ne l'a pas été, soit par négligence, soit par l'incompétence ou encore de façon délibérée par les différents responsables. Et il appartient à la justice de clarifier encore plus la situation pour sanctionner les responsables.
Alors dans les deux cas, que ce soit détournement ou manque à gagner, les finances en souffrent.
Tout à fait, Georges. Et en ce qui concerne ce rapport, le manque à gagner représente la plus grande partie des 1,3 milliard de dollars. Écoutez à ce sujet, Eric Opita, c'est l'un des responsables de la commission qui a établi le rapport.
C'est beaucoup plus grave. Le détournement, il y a des traces. Mais le manque à gagner, il faut un travail de fourmi pour détecter cela. Je prends un exemple. Vous savez que dans notre système fiscal, c'est l'opérateur économique qui déclare ce qu'il doit. Il déclare, prenons 1 million, que je dois 1 million. Et curieusement, les administrations chargées de recouvrer ces 1 million ne les recouvrent pas. Mais nous avons les éléments de sa suspicion. Mais on n'a pas vu là où il a payé. C'est un indice. Quand on le prend, on envoie cela aux administrations qui devraient recouvrer pour qu'ils nous expliquent pourquoi ça n'a pas été recouvré. Et là-dedans, il n'y a pas de réponse.
Ceci suppose qu'en réalité, on aurait plus d'argent perdu par le trésor public que ce que vous avez annoncé.
Oui, et ça c'est plus dangereux encore. Vous savez, après un tel résultat, on se dit le mal est profond.
Nasser Koko, le mal est profond, mais où est-ce qu'il y a eu évaporation de cet argent? C'est où?
L'enquête a concerné Georges Kamoudova, 3 régies financières, c'est-à-dire l'OFIDA, la DGRAD et la DGI, ainsi que 6 entreprises publiques, la SNEL, l'ONATRA, la Régie des Eaux, la SONAS, l'ECC et la RVA.
Et qui sont les présumés coupables de ces actes de corruption?
Leurs noms n'ont pas été révélés. On sait tout de même que les dossiers des 17 responsables physiques et 10 personnes morales ont ont été transmis au procureur général de la République par le ministre de la Justice. Mais vu la période de l'audit, c'est-à-dire entre janvier 2006 et juillet 2007, on peut logiquement imaginer que les gestionnaires de ces 9 entités durant cette période et leur tutelle soient interpellés.
Vous dites bien interpellés, c'est la justice. Hein.
En tout cas, le procureur général de la République que nous avons contacté nous a confirmé que ces personnes seront poursuivies. Il n'a rien ajouté d'autre. C'est le secret de l'instruction. D'autres analystes pensent à d'autres méthodes pour que le pays rentre dans ses droits. Écoutez Lems Kamwanya qui parlait au dialogue entre Congolais cette semaine.
La première des actions, c'est voir si, comme ce sont des personnes physiques bien identifiées qui sont à la base de ce détournement, c'est vérifier si ces personnes disposent des comptes en leur nom, au nom de leurs femmes, au nom de leurs enfants. À ce moment-là, on mettrait la main sur ces comptes-là, les geler et voir dans quelle mesure justifier l'origine de ces sommes-là. Ensuite, c'est voir si ces personnes ont des immeubles, ils ont d'autres biens, peut-être des sociétés. À ce moment-là, on chercherait bien la source de toute cette richesse par rapport aux revenus qu'ils gagnent ou qu'ils sont supposés gagner. Et là, ce sont des actions, des choses qui peuvent être récupérées. Bon, s'il y a aussi une bonne partie qui a été dilapidée par un train de vie qui est supérieur à la normale, ça c'est sûr que ça ne pourra pas être récupéré.
Mais il semble que les solutions ou les propositions de Lems Kamwanya, il semble que le gouvernement ait déjà demandé à quelques-unes des personnes accusées de restituer l'argent et les biens volés.
Cela a été fait par les ministres des Finances et du Portefeuille, mais on ignore à ce jour combien d'argent a été récupéré.
Mais Nazar Koko, quel impact cette dénonciation d'actes de corruption peut avoir sur les relations entre la RDC et ses autres partenaires financiers?
Les partenaires de la République démocratique du Congo se sentiront rassurés par sur leurs intentions, les intentions des dirigeants actuels de combattre la corruption. Cependant, pour certaines structures telles les ONG de lutte contre la corruption, cette dénonciation ne doit pas se limiter aux effets d'annonce. Maintenant que la République démocratique du Congo a amorcé la réforme de ses entreprises publiques et la refondation de son économie, ces ONG estiment que cet élan devait être renforcé par des sanctions à l'endroit des corrompus et des corrupteurs. C'est l'avis de Rachidi Akida, président de la Ligue contre la fraude et la corruption.
Surtout, ce que nous demandons, c'est que le gouvernement puisse aller jusqu'au bout, qu'on assainisse sérieusement, qu'il y ait une gestion transparente, qu'on puisse sanctionner ceux qui sont impliqués dans la corruption, dans la fraude, dans le détournement des deniers publics et surtout les déférer devant les juridictions compétentes. Parce que les autres bailleurs de fonds ou les investisseurs ne viennent plus au Congo, pourquoi? C'est parce qu'il y a la corruption, donc il n'y a pas de sérieux. On ne prend jamais de mesures drastiques qui s'imposent pour pouvoir éradiquer tous ces maux qui rongent notre économie nationale. Donc, il faut qu'il y ait une gestion transparente. Et avec ça, les investisseurs qui ne sont pas habitués à la corruption, à la mauvaise gestion, à la mauvaise gouvernance, eh bien, ils vont croire qu'effectivement, il y a quand même du sérieux au Congo qui commence à pointer à l'horizon.
Alors, jusque-là, pas de réaction des bailleurs de fonds comme le FMI ou la Banque mondiale?
Si une réaction de la Banque mondiale à cette dernière promet de renforcer ses audits sur le financement qu'elle accorde à certains projets en République démocratique du Congo, c'est ce qu'a fait savoir sa directrice en visite en RDC, Ngondi Okonjo. Je vous propose de l'écouter.
La Banque mondiale va financer avec les instruments qu'il faut nous aider à sauvegarder l'argent. Nous allons faire des audits. Nous aurons des instruments d'audit pour chaque projet. Les supervisions chaque 6 mois pour surveiller les projets. Nous travaillons étroitement avec le gouvernement pour aider de renforcer la capacité de suivi du gouvernement et la capacité de notre suivi. Parce que si vous dites qu'on lutte contre la corruption, on peut continuer à lutter 30 ans. Mais quelles sont les sources les plus grandes de corruption? Les identifier, faire des audits, comme vous avez dit, essayer de bloquer les sources de fuite, et puis sanctionner les gens.
Alors, Nazar Koko, continue à faire des audits. La commission qui a établi le rapport, commission d'audit et de bonne gouvernance, a-t-elle clôturé son travail?
Pas encore, Georges. Cette commission a été créée depuis mai 2005. Elle entend poursuivre ses enquêtes dans d'autres secteurs.
Merci, en tout cas. On vous retrouve de toute façon avant la fin de cette émission à Écho d'économie.
C'est moi qui vous remercie, Georges.
Les infos économiques en Afrique et dans le monde.
Quelles actions pour lutter contre la crise alimentaire en Afrique centrale? Les ministres des Finances et de l'Agriculture de 11 pays répondront à cette question dès ce lundi. Les responsables de la Communauté économique des États d'Afrique centrale se réuniront à Kinshasa où leurs experts les ont précédés. Au Congo Brazza, 4 millions d'euros de la Chine pour la santé et l'agriculture. La Chine finance également dans ce pays la construction d'un barrage hydroélectrique pouvant produire 120 MW. La Chine, on en parle encore avec le gel de tous les nouveaux investissements français sur son territoire. Cette suspension de 3 mois a été ordonnée à tous les services administratifs de Pékin. Selon le journal français Les Échos qui a publié cette information, ce sont les relations diplomatiques tendues entre Pékin et Paris qui seraient à la base de cette mesure. Autre relation diplomatique qui empoisonne l'économie, c'est celle entre la Libye et la Suisse. Les bateaux suisses sont interdits d'entrer dans les ports libyens et les succursales de Nestlé fermé à Tripoli. La mesure d'interdiction sur les navires n'aura pas d'impact sur l'économie suisse selon les autorités helvétiques. La Libye considère l'interpellation de Hannibal Kadhafi, fils du guide, comme une affaire montée de toutes pièces. Hannibal Kadhafi est accusé de sévices corporels sur ses domestiques. La banque marocaine Hati Jari Wafa Bank vient de racheter la moitié de la Banque internationale du Mali. L'État malien qui détenait 51% de la BIM a perçu donc ce vendredi de la marocaine 70 millions de dollars pour ce rachat. Hati Jari Wafa Bank, 6e banque africaine, est aussi proposée à l'État congolais pour acheter le 1/4 de la Banque commerciale du Congo détenue par le groupe belge Fortis. Un clin d'œil sur les marchés des matières premières pour terminer. Après son record d'il y a 2 semaines à 147 $, le pétrole termine la semaine aux environs de 125 $ le baril. La tonne de cuivre, elle, est à 8 260 $, soit 160 $ de moins qu'en début de semaine. Son compagnon, le cobalt, passera un très mauvais week-end. La tonne a chuté cette semaine jusqu'à 84 000 $. En 2 mois, ce métal donc a perdu 30% de sa valeur.
Le reportage de la semaine.
Éco-reportage nous amène aujourd'hui au Sud Kivu. Visite à la société Pharmakina. Elle est installée dans la ville de Bukavu depuis l'époque coloniale. Dans les années 60, elle est transformée en société de production pharmaceutique et d'extraction de quinine. Aujourd'hui, Pharmakina offre des produits finis à base de quinine pour le marché régional et produit également des antirétroviraux. Jean-Baptiste Tonga nous conduit au cœur même de la Pharmakina.
Nous sommes dans l'usine de fabrication de la quinine à la société Pharmakina Bukavu. Les ouvriers sont en plein travail. De l'écorce de quinquina, de l'extraction de la quinine jusqu'à sortir comprimés et autres différents produits, il y a tout un processus. Mais d'abord, comment est orientée la production?
Martial Cagnon, pharmacien responsable de la société Pharmakina. La production de la Pharmakina sur le plan pharmaceutique est orientée d'un côté à la production de la quinine et de l'autre côté par la production des antirétroviraux et qui sont orientés vers les patients qui vivent avec le VIH. La plus essentielle pour nous, c'est bien évidemment la production de la quinine qui est destinée à traiter les paludismes. Et notre pays a aligné la quinine parmi les traitements de deuxième ligne. C'est pour cela que nous la produisons sous forme de comprimés, ou bien des injectables, ou bien des solutions liquides.
Pour les chefs de production, l'écorce de quinquina est la matière première.
Je m'appelle Amère Emmanuel. Bon, nous pouvons produire au total par jour, dans des conditions normales, 300 kilos de quinine par jour. Il y a 8-10 ans, nous traitions 3600 kilos d'écorce par an. 3000 tonnes 600 kilos. Actuellement, nous sommes aux environs de 2000 tonnes 500. Une baisse de 1000 tonnes. Il y a beaucoup d'écorce qui passent par un circuit illégal et cela nous fait manque à gagner péril. Il y a aussi un problème de la sécurité.
Qu'est-ce que cela entraînerait comme conséquence?
À ce moment-là, si la production baisse,
et que les dépenses restent les mêmes, nous allons faire la perte. Deuxièmement, nous saurons plus garantir notre production, tant locale qu'extérieure. Notre production doit garantir les soins à la malaria. Et là, on aura pris sur les plans locaux la main de continuer.
La pharmacina utilise une main-d'œuvre locale.
D'accord, Katongo.
Pierre,
directeur de ressources humaines pharmacina.
Nous avons, rien que pour l'usine de Bukavu, 724 travailleurs réguliers avec des contrats à durée indéterminée. Tandis qu'en secteur, au total, 1072, nous accueillons aussi les stagiaires.
Que dire de la commercialisation de produits finis, quels contrats et où les trouve-t-on?
Michel Debert, je suis le directeur administratif et financier de la pharmacina à Bukavu. Nous exportons directement à partir d'ici, c'est-à-dire la vente se fait à partir de Bukavu. Vers les clients finaux partout dans le monde, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest. Notre intrant principal, c'est-à-dire la matière première, sont les écorces de quinine que nous trouvons ici dans la région, c'est la région du Kivu, de l'Est du Congo. Malheureusement, pour les matières auxiliaires et les intrants que nous avons besoin, nous devons malheureusement les importer parce que nous ne les trouvons pas sur place.
Est-ce qu'on peut estimer les coûts de ces intrants?
Je dirais que ça monte quand même à peu près 70%. Ça, c'est un grand atout, je pense. Et de par notre engagement envers l'État, nous soutenons aussi le développement de ceci.
Jean-Baptiste Tonga au cœur de la pharmacina et vous continuez à suivre Écho d'économie sur Radio Capi.
Matière première.
La rubrique matière première en RDC aujourd'hui avec un zoom sur le diamant. Le géant minier du diamant en RDC, la MIBA, vient de récolter 7 millions de dollars. 7 millions et demi d'ailleurs, en début de semaine, résultat d'une vente aux enchères de plus de 330 000 carats. C'est la deuxième vente cette année après avoir résilié son contrat avec la Canadienne Emaxon, Jocelyne Moussaou.
Les 335 000 carats sont partis dans les sacs d'un seul acheteur, alors qu'à la première vente, 12 traîneurs s'étaient disputés presque la même quantité. Conséquence immédiate de cette deuxième vente, le carat a valu 22 dollars, soit 2 dollars de moins qu'il y a 3 mois lors de la première vente. Malgré cette contre-performance, le diamant de la MIBA a retrouvé un peu de sa valeur, car il y a juste 6 mois, il ne s'est vendu qu'à 15 dollars. C'est Emaxon qui dictait le prix. La Canadienne a acheté le 9/10 du diamant de MIBA. Le contrat a été résilié en avril et en deux ventes, la MIBA a empoché 15 millions de dollars. Les montants qu'Emaxon lui avait versés pour jouir du monopole d'achat de son diamant durant 5 ans. Maintenant, liberté retrouvée, vente valorisée, la production de diamants MIBA reste toutefois faible. Les responsables de l'entreprise l'évaluent à 100 000 carats par mois. En d'autres termes, 10 fois moins qu'il y a 30 ans. La fraude y est pour quelque chose, mais le géant du diamant a également besoin d'un nouveau souffle, tant en finance qu'en équipement ou en gestion.
La chronique matière première avec Jocelyne Moussaou Pondé.
Portrait de l'entrepreneur.
Le secteur forestier est l'une des sources d'entrée de devises pour l'économie congolaise. Il n'y a pas que les investisseurs expatriés dans ce domaine, mais aussi des nationaux. Écho d'économie présente Véronique Basseke, patronne de la foresterie du Lac. C'est une entreprise d'exploitation de bois avec 162 employés. Elle est étendue sur Kinshasa et les territoires d'Inongo dans la province de Bandundu. Véronique Basseke la gère avec d'autres Congolais. Portrait avec Nazar Koko.
Revolu s'étend des domaines exclusifs des hommes à l'heure de l'émancipation de la femme ou mieux de la promotion du gender, la femme se révèle aussi, voire plus entreprenante que l'homme dans les domaines aussi variés qu'elle exige sa compétence. Question de trouver son intérêt, même si parfois à l'origine, un coup de sort comme pour Véronique Basseke.
Je remercie un peu plus ma mère qui m'a initiée là-dedans parce que de formation, j'ai fait un peu de gestion et organisation des entreprises, mais j'avais pas terminé. Et puis, j'ai fait l'école d'infirmière. Mon entreprise, je la gère avec beaucoup d'intérêt.
Femme de caractère, quinquagénaire, Véronique sait ce qu'elle attend de ses employés.
J'aime bien un travail bien fait et un travail dynamique. J'attends d'abord d'un travailleur d'être à temps à son travail, d'avoir de la créativité. Et j'attends aussi beaucoup de tolérance entre eux.
Il n'est pas facile de gérer les hommes, nous dit-elle, dans son bureau quartier Kingabwa limité à Kinshasa. Cependant, il faut avoir du tact et de la patience pour y parvenir, assure-t-elle.
Dans les bureaux et les ministères qu'on a à aller voir en cas de problème, c'est toujours un peu compliqué parce que, bon, soit les hommes pensent qu'ils ont tous les droits, hein, et souvent on est quand même maltraité aussi. En tant que femme, il y a des hommes qui ne respectent pas les femmes. La loi, heureusement qu'elle vient de changer. Parce qu'on nous considère comme des femmes enfants, on a besoin d'autorisation maritale. C'est un peu du Moyen-Âge, quoi. Mais quand on veut quelque chose, il faut y arriver.
À cette difficulté liée à sa nature des femmes, Véronique Basseke rencontre bien d'autres qu'elle appelle frein à la promotion de l'industrie locale.
La première difficulté, c'est le fait qu'au Congo, c'est compliqué de pouvoir obtenir un crédit. C'est vrai, il y a des banques qui donnent les crédits, mais maintenant, le pourcentage qu'on va me demander est tellement exorbitant. Côté taxes, c'est de la folie, quoi. Nous, dans notre métier, on a 178 ou 179 taxes. Donc, c'est du point d'abattage à l'export.
En dépit de ces difficultés, Véronique prend tout son plaisir dans ce qu'elle fait.
Ce que j'aime bien, c'est de bouger un peu, de voir des gens, de prendre des contacts, de connaître le métier. Parce que, bon, en fait, finalement, j'apprends beaucoup de choses sur le tas. Par exemple, j'ai jamais été gestionnaire, mais je me suis entourée de personnes qui ont fait des études adéquates et ça m'aide beaucoup.
Femme, il faut savoir planifier son temps, partager son temps entre la mère, l'épouse et l'entrepreneur. C'est ce que Véronique Basseke conseille aux autres femmes désireuses d'entreprendre comme elle. L'avenir de son entreprise, elle le voit radieux, surtout avec l'exploitation prochaine de la série qu'elle est en train de mettre sur pied.
Le portrait de Véronique Basseke que nous dressait Nazar Coco, c'est sur ce portrait qu'Echo d'économie vous quitte. Jocelyne Moussaou, Jean-Baptiste Ntonga nous ont aidé à préparer cette émission. Vos suggestions et réactions à eco@radiookapi.net. Joli week-end à tous et à la semaine prochaine.